Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dans le monde, mais aussi en France, existent des hommes et des femmes qui sont contraints par la force d'exercer un travail ou une activité contre leur gré. On appelle cela le travail forcé. Plus de 20 millions de personnes en seraient victimes dans le monde chaque année, et ce jusqu'en France, puisqu'en 2014 et en 2015, des personnes ont même été condamnées pour réduction à l'esclavage. Une réalité mal connue à laquelle le pape François est très sensible, lui qui depuis 2013 en parle régulièrement, disant de la traite humaine qu'elle est un crime contre l'humanité. Voilà pour cette émission Vivante Église ce matin, donc sur un sujet grave qui est donc le travail forcé, cet esclavage qui ne dit pas son nom. Je reçois ce matin Sylvie Audy, vous êtes présidente du comité contre l'esclavage moderne, bonjour.
Oui, bonjour, je suis vice-présidente.
Vice-présidente, pardon, autant pour moi, et donc et ce pour la France. Et puis en plateau aussi, Martine Combemal, vous êtes directrice fondatrice de Ressources Humaines Sans Frontières, bonjour.
Bonjour.
Parlez bien dans le micro. Alors, on va commencer par essayer d'expliquer à nos auditeurs qui ne sont pas familiers de ce sujet, et je vais vous donner la parole, Sylvie Audy, ce qu'est le travail forcé. Alors, en fait, dans mon introduction, j'ai, semble-t-il, mélangé deux termes qui sont un peu à distinguer. Si j'ai bien compris, c'est la différence entre la traite des humains et le travail forcé. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quelle définition il faut donner de ces deux réalités, s'il vous plaît ?
Alors, la loi française en donne deux, donc je peux vous citer. Article 225-14-1 du Code pénal. Le travail forcé est le fait par la violence ou la menace de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli. Les peines peuvent aller jusqu'à 7 ans de prison et 200 000 euros d'amende.
Voilà, alors... Il faut dire, si j'ai bien compris, en fait, que ça concerne donc une multitude d'actes et de moyens, puisque j'ai noté que ça concernait donc les actes de transfert, de transport, de recrutement, d'hébergement et d'accueil.
Non, ça c'est la traite des êtres humains.
Ah bon, pardon.
Je vais vous donner la deuxième définition, qui est l'article 225-4-1 toujours du Code pénal. Et la traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation. Ensuite, ce texte de loi définit les formes les moyens, c'est-à-dire soit avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, soit en échange ou par octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage, ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. J'ai un petit peu réduit, l'article est extrêmement long. Donc on voit bien qu'il y a à la fois dans la traite des êtres humains, un fait, c'est-à-dire le recrutement, le transport, un moyen, la menace, la vulnérabilité, l'abus de vulnérabilité, et une fin, l'exploitation, donc qui peut être le travail forcé, bien sûr.
Voilà, alors donc parmi toutes ces réalités, donc au final ça peut donner du travail forcé, de la prostitution, exploitation sexuelle, prélèvement d'organes, esclavage moderne. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ces différentes réalités auxquelles vous êtes confrontés ?
Alors, c'est vrai qu'en France, on mélange un peu tous les termes. D'abord, le travail forcé n'est entré dans la loi qu'en 2013, donc avant, alors que le comité contre l'esclavage moderne existe depuis 1994 et effectivement a amené devant la justice plus de 250 dossiers. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas utiliser parler de travail forcé puisque ça n'existait pas d'un point de vue judiciaire. Donc on parlait d'abus de vulnérabilité pour obtenir des services ou un travail d'une personne sans la rémunérer à hauteur de ce qu'elle faisait, ou du maintien d'une personne dans des conditions d'hébergement ou de travail contraires à la dignité humaine. Donc, il y a toutes ces notions-là qui rentrent dans ce qu'on appelle globalement l'esclavage moderne, qui comprend effectivement le travail forcé, la prostitution forcée, le mariage servile, la mendicité forcée. Donc, c'est vrai que c'est assez peu compréhensible par les gens qui nous écoutent, mais en même temps, il faut voir que c'est un phénomène qui est caché la plupart du temps, qui est derrière des murs, que ce soit les murs d'une maison en cas d'esclavage domestique, les murs d'ateliers ou des caves en cas d'atelier secret, le proxénétisme, la prostitution forcée se fait maintenant par Internet. Donc c'est vrai que ce sont des phénomènes qu'on ne voit pas vraiment, encore que la prostitution soit celui qu'on connaisse le mieux.
Alors, on les voit pas, mais donc c'est une réalité. Là, on va la détailler au fur et à mesure de cette émission, mais peut-être pour poser le cadre, même si, en effet, comme vous dites, ça peut paraître parfois un peu complexe. Est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres? Moi, j'ai relevé ces chiffres-là. On parle de plus de 20 millions de personnes donc qui seraient victimes de travail forcé dans le monde et de 2,5 millions de personnes qui seraient victimes carrément de la traite humaine. Est-ce que vous pouvez nous les détailler peut-être?
Alors là, ce sont les chiffres de l'Organisation internationale du travail, les 21 millions de personnes dans le monde effectivement victimes de travail forcé. Et donc, qu'est-ce qu'on met effectivement dans le travail forcé? Alors, il y a énormément de choses. Donc, il y a à la fois, il peut y avoir du travail dans les mines, dans des pays où il n'y a pas de réglementation, dans des ateliers, que ce soit de confection ou de fabrique de briques, dans des champs, dans le monde agricole, il y a beaucoup de travail forcé. Sur les bateaux de pêche, on a eu des affaires en Thaïlande. Dans l'électronique, pendant assez longtemps, Apple a été accusé d'utiliser des ateliers en Chine, à Foxconn, où il y avait du travail forcé. C'est-à-dire que les conditions de travail des gens qui étaient là relevaient du travail forcé. On parle beaucoup aussi des grands chantiers des pays du Golfe Persique, par exemple sur le mondial de foot, dans les grandes propriétés brésiliennes, ces immenses propriétés. Les gens exploitent une main-d'œuvre docile qui est sans recours, qui est privée de ses droits fondamentaux, qui est corvéable à merci et dans une indifférence quasi générale. Mais ces questions, effectivement, on les retrouve aussi en Europe et en France. En France, il y a du travail forcé. Nous accompagnons des victimes de travail forcé.
Alors peut-être on verra ça au fur et à mesure de l'émission. Vous aviez une remarque, Martine Combal.
Non, je voulais simplement compléter. Il y a des pays où le travail forcé est endémique. Je pense à Taïwan, la Malaisie, le Qatar, par exemple.
Ça veut dire quoi, que le travail forcé est endémique?
C'est-à-dire qu'il y a très peu de main-d'œuvre dans le pays, beaucoup d'emplois de faible qualification, donc on a besoin de populations migrantes externes au pays, et une législation qui ne protège pas ces personnes-là, avec des agences d'intérim qui font le pont entre les salariés et les entreprises. Et là, il y a vraiment énormément de travail forcé dans la sous-traitance.
Alors Sylvie Audi, donc vous avez cité un certain nombre d'exemples, je vous en remercie. Moi, en préparant l'émission, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu des choses peut-être qui sont pas très connues et qui peuvent éclairer aussi un petit peu l'actualité. J'ai vu par exemple qu'il y avait des marchés d'esclaves en Libye. Alors on entend parler, on a entendu parler dans la presse ces derniers mois ou ces dernières années en fait des exactions de Daesh et des horreurs, mais j'avoue que j'avais jamais entendu parler de ces marchés d'esclaves en Libye. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de cet exemple, est-ce que vous le connaissez?
Écoutez, moi je le connais comme vous par la presse, j'ai lu effectivement, vous savez la Libye est l'endroit où arrivent énormément de personnes qui veulent venir en Europe. Donc c'est un lieu où il y a une population migrante extrêmement importante, extrêmement vulnérable puisqu'ils n'ont aucune attache sur place et donc évidemment, en plus on sait qu'en Libye actuellement l'État est faible, les lois sont faibles, il y a des bandes organisées et ces gens-là effectivement en fait prennent en otage ces migrants et il y a effectivement, enfin moi je l'ai appris comme vous, il y aurait des marchés d'esclaves. C'est vrai qu'on n'a quand même pas connu ça dans notre monde depuis assez longtemps, donc c'est effectivement très très effrayant. Ce ne sont pas les cas les plus importants. Il ne faut pas se cacher devant les cas les plus forts. Ce qui est vraiment le plus important, ce sont ces travails privés dont on dit effectivement que 90% des personnes qui en sont victimes sont employées soit par des entreprises grandes ou grandes en sous-traitance, soit petites, soit par des personnes privées. Et 10% par des États ou des groupes militaires. Un exemple récent dont on a aussi parlé dans la presse, ce sont des femmes qui viennent de Corée du Nord, qui sont envoyées en Pologne pour travailler dans des usines. Elles sont regroupées dans des appartements ou des lieux d'habitation surpeuplés et l'intégralité de leur salaire est envoyée directement en Corée du Nord. Voilà, ça c'est une forme de travail forcé qui existe en Europe.
Ça existe en Pologne en fait, ce que vous dites?
Oui, en Pologne. Par exemple.
Mais donc ça veut dire que l'État polonais se rend complice d'une telle réalité en fait. C'est...
L'État polonais se rend complice maintenant qu'on en a parlé. Avant, est-ce qu'il était vraiment au courant? Ce sont les entreprises qui emploient les gens. On ne peut pas toujours dire que l'État fait tout. Les entreprises ont des responsabilités. C'est bien pour ça, effectivement, qu'en France, au mois de mars, on a voté une loi sur la vigilance des entreprises, pour obliger les entreprises à regarder ce qui se passe. Alors, pour la France, c'est chez leurs sous-traitants, mais ça peut être aussi dans les lieux, dans les pays où ils sont installés principalement.
Alors, Martine Comal, parlait donc de quelques pays d'Asie. De fait, en préparant l'émission, je suis tombé sur les chiffres suivants qui laissent entendre en fait qu'une bonne partie de ce travail forcé serait surtout en Asie-Pacifique. J'ai noté que c'était 56% du total. Le reste, c'était en Afrique, 18%, Amérique latine, 9%, et donc 7% pour l'Europe. Est-ce à cause de ces pays où le travail forcé est endémique, comme le décrivait Martine Comal? Pourquoi est-ce que l'Asie est aussi représenté?
Écoutez, le travail forcé comme l'esclavage moderne, comme toutes ces formes-là, naissent de la misère et de la vulnérabilité. Quand des populations, que ce soit des individus, des hommes ou des femmes ou des enfants, n'ont pas de quoi manger ou de quoi vivre, ils acceptent évidemment le travail qu'on leur propose, même s'il est mal payé. En Inde, par exemple, une année, les récoltes sont mauvaises. Le père de famille ne peut pas acheter les semences pour l'année suivante. Il n'a pas de quoi nourrir sa famille. Donc, il va voir quelqu'un à qui il veut emprunter de l'argent pour pouvoir acheter ses semences et faire vivre sa famille. La personne accepte de lui prêter cet argent parce qu'il a un besoin urgent ou pour acheter des médicaments pour son enfant malade. Mais comme remboursement, il demande que lui, sa femme ou ses enfants viennent travailler pour lui, par exemple, dans une fabrique de tapis ou dans une briqueterie. Donc voilà comment ça se passe vraiment. On ne peut pas dissocier la situation de pauvreté et la vulnérabilité de ces populations. Or, on sait effectivement qu'en Asie, comme en Afrique, il y a des populations très pauvres et très vulnérables.
Alors peut-être pour finir, avant qu'on fasse une première pause, j'aimerais qu'on parle de la traite des mineurs, puisque donc au milieu de ça, hélas, on va dire comble de l'horreur. Alors pardon à nos auditeurs, mais en même temps c'est un sujet dont il faut quand même parler. Donc ça concerne parfois un certain nombre de mineurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette situation particulière des mineurs? Est-ce qu'elle est extrêmement marginale? Voilà, à la fois peut-être distinguer la traite humaine et le travail forcé.
Écoutez, la situation des mineurs est effectivement très grave. Et là, le travail forcé des mineurs également. Il y a effectivement, on pense qu'il y a plusieurs millions d'enfants qui sont dans des situations de travail forcé, ce qui est énorme. Par exemple, dans les mines, dans certaines mines, on utilise des enfants parce qu'ils sont plus petits, donc c'est plus facile de les faire rentrer dans des boyaux de mines qui sont très étroits. Et il y a un mépris total pour leur sécurité. Dans les pays, d'autres pays, par exemple l'Afrique du Nord, mais aussi la France, on utilise de jeunes enfants comme esclaves domestiques. Nous avons eu des personnes que nous avons accompagnées qui étaient arrivées en France très jeunes comme esclaves domestiques. C'est-à-dire que quelqu'un avait proposé à leur famille de les prendre en France, de les emmener en France en disant « voilà, là, il pourra, ton fils ou ta fille pourra aller à l'école ». Et en revanche, elle mènera un petit peu à la maison. Donc les parents qui voulaient un avenir meilleur pour leur enfant disent oui. Et arrivés en France, ces enfants se retrouvent à s'occuper d'une famille de 10 personnes, à ne jamais aller à l'école, à ne pas manger à leur faim, à dormir par terre. Donc voilà, ça c'est une autre forme de travail des enfants. Il y a évidemment ce qu'on sait des mineurs dans des problèmes de proxénétisme, d'esclavage sexuel, de traite à des fins d'esclavage sexuel. Et en France, il y a également des enfants qui sont contraints à mendier par des organisations, par des réseaux. Mmh. Et souvent, malheureusement, ces enfants sont considérés d'abord, ou ils sont contraints à mendier ou à voler, ils sont d'abord considérés comme des voleurs, avant d'être considérés comme des victimes. Donc un des combats effectivement que nous menons avec d'autres associations actuellement, c'est de faire reconnaître leur statut de victime en premier.
Est-ce qu'on sait combien il y a d'enfants comme ça qui sont victimes à la fois de la traite humaine et du travail forcé dans le monde et en France?
Écoutez, moi je suis toujours très très gênée de donner des chiffres parce qu'en gros on n'en sait quand même vraiment pas grand-chose. sont des estimations. Alors j'avais vu effectivement des chiffres disant qu'il y avait, je crois, 5 millions d'enfants qui étaient dans des situations de ce type. Mais moi j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que évidemment on ne considère dans notre monde actuel qu'un phénomène n'existe que s'il est chiffré. Or c'est pas vrai, justement. Ces victimes échappent à ces statistiques. Comment est-ce qu'on peut les compter? Elles ne vont très rarement devant la justice. Il n'y a pas de condamnation. Elles passent clandestinement les frontières. Elles vivent dans des situations soit cachées, soit enfermées. Donc voilà, il y en a beaucoup, mais c'est très difficile de dire combien il y en a.
Peut-être, avant de faire une première pause musicale, est-ce que vous nous... Enfin, ça paraît être évident, et puis vous l'avez dit à plusieurs reprises, hein, mais quand on est migrant, on est particulièrement exposé. Est-ce à dire que, à la faveur de la grande crise migratoire que l'Europe a connue, vous avez, et vous, au Comité contre l'esclavage moderne, eu vent de situations, justement, de travail forcé ou de traite humaine qui ont été accentuées par cette vague migratoire exceptionnelle?
Oui, bien sûr. Et il est certain que la vague migratoire que l'on connaît actuellement, avec des personnes qui sont dans des situations extrêmement difficiles, permet à des gens d'exploiter plus encore leur misère et leur vulnérabilité. Donc, on l'a vu en Italie, où il y a eu effectivement dans les champs italiens, donc les migrants arrivant par le sud de l'Italie, dans les champs, il y a eu des histoires terribles de migrants qui étaient pris à l'arrivée et emmenés directement dans les champs, vivant dans des de casemates, dans des conditions épouvantables. On le sait, évidemment, ça existe. On pense aussi que dans des camps, ces situations existent, et les réseaux, évidemment, essaient d'en profiter. Mais cette situation, la mondialisation, évidemment, accentue ces problèmes. Mais ça existait déjà avant, et il y a des formes individuelles où des gens vont chercher quelqu'un et le mettre à leur service.
Alors, on va faire une première pause musicale pour ce sujet difficile, mais ô combien important, qui, je rappelle, est cher au cœur du pape François, puisqu'il insiste pour qualifier cela de crime contre l'humanité, et ce depuis son élection en 2013. Et on vous retrouve tout de suite après, peut-être pour raconter quelques histoires un peu plus précises, au risque d'être sordide, mais pour essayer de bien comprendre. Et puis peut-être pour essayer de voir avec Martine Combal ce qui existe en Midi-Pyrénées. Puis on finira cette émission, évidemment, en donnant quelques exemples de lutte, enfin comment peut-on faire pour lutter contre tout cela?
Qui peut savoir où le destin entraîne? Comment l'amour peut se changer en haine? Comment la nuit chasse le jour? Pourquoi la mort nous tourne autour? Tu peux passer des années, des dizaines, lire les tarots d'étranges vénitiennes, risquer ta vie au carrefour. Toutes les nuits tu tournes autour, tu tournes autour, tu tournes autour d'un goût de sel et de marée. Alors la nuit est annoncée. On est encore à cette heure incertaine, où les regards ont des flammes soudaines. Passent les chiens, viennent les loups, au crépuscule sortent les fous. Dans les ténèbres, un zigane d'Ukraine parle très peu en souriant à peine. Les hommes qui posent pas de questions en voie de disparition. Tu tournes autour, tu tournes autour, de cheveux noirs et parfumés. Alors la nuit est arrivée. Si la musique est un très grand mystère, elle peut séduire aussi bien que la mer. Les déraisonnables, attention, sont en voie de disparition. La nuit qui vient, cette femme magique va t'embarquer au-delà des limites. Je n'ai pas posé de questions à cette étrange apparition. Elle tourne autour, je tourne autour, elle devient folle et débauchée. Nos deux corps tournent mélangés. Savoir où le destin m'entraîne. J'ai voyagé des années, des dizaines, pour risquer ma vie au carrefour. Pour le savoir, je cours toujours.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin, donc sur le travail forcé, cet esclavage qui ne dit pas son nom, avec Sylvie Audy, vice-présidente du comité contre l'esclavage moderne, et Martine Combemal, fondatrice de Ressources Humaines Sans Frontières. Alors on n'a pas présenté Ressources Humaines Sans Frontières ni le comité contre l'esclavage, mais comme vous allez nous quitter dans pas très longtemps, peut-être que vous pouvez dire quelques mots sur ce comité contre l'esclavage, Sylvie Audy, et puis après vous allez nous donner deux exemples précis.
Oui, alors le comité contre l'esclavage moderne accompagne les victimes de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation économique depuis 1994, c'est-à-dire des femmes à qui on avait promis un vrai travail et qui deviennent esclaves domestiques, ou des hommes asservis dans le bâtiment, la restauration, les petites entreprises ou le monde rural, ou encore contraints à mendier ou à commettre des délits. Ils sont forcés à travailler, passeport confisqué, sans salaire ou sans repos, dans des conditions de vie souvent indignes. Et en fait, à ces personnes, le comité contre l'esclavage moderne apporte un soutien global, à la fois juridique et psychosocial.
D'accord. Et donc, précision faite. Vous vouliez ajouter quelque chose, pardon ?
Non, je vais vous dire que dans ce cadre-là, et vous me demandiez en fait de vous citer quelques histoires.
Voilà, c'est ça, oui, parce que vous avez donné quelques exemples, on va dire, oui, dans le monde et en France, mais je tenais à ce que vous nous racontiez des histoires, parce que c'est souvent quand même ce qui, hélas, nous marque le plus.
Alors, en fait, le comité contre l'esclavage moderne a choisi, en fait, pour combattre ces drames en France, la voie judiciaire. Donc, nous conseillons et nous accompagnons nos victimes pour qu'elles fassent des procès, pour qu'elles retrouvent à la fois leurs droits et leur dignité, et que leurs exploiteurs soient condamnés. Depuis qu'on existe, on a fait à peu près plus de 225 décisions judiciaires, ce qui est beaucoup devant toutes les juridictions. Et donc, je vais vous en parler de deux qui me paraissent assez emblématiques de ce que nous faisons. L'une concerne une jeune fille togolaise qui est arrivée en France à l'âge de 14 ans, s'appelle Henriette. On avait promis à ses parents qu'elle viendrait en France, qu'elle serait scolarisée, donc c'était une chance pour elle et qu'elle aiderait un peu à la maison.
Quand vous dites « on », c'est qui ?
C'est une femme qui avait été voir sa famille, une vague connaissance, c'est-à-dire pas quelqu'un de proche. Donc les parents avaient accepté, donc Henriette est partie, elle est arrivée en France, et là effectivement pas d'école, elle s'est retrouvée en fait à faire des ménages, du ménage d'abord chez la personne chez qui elle était, qu'il a prêté à d'autres personnes pour elle aller encore faire des ménages, enfin à travailler sans arrêt, elle dormait par terre, elle ne mangeait pas à sa faim. Et au bout d'un certain temps, cette première personne-là, en fait, prêtée, à mon avis, c'est vendue, mais on n'a pas eu les preuves, à une autre personne chez qui elle est restée 4 ans, ce qui est quand même une très longue période. Et là, effectivement, elle, dans un appartement parisien, elle a passé 5 ans à travailler, à manger les restes des enfants, à dormir par terre, sans avoir le droit de se reposer, sans congé, sans rémunération, sans pouvoir voir un médecin alors qu'elle a été malade, sans avoir le droit d'aller, que ce soit à l'église ou ailleurs. Elle ne pouvait sortir que pour récupérer les enfants en bas de l'immeuble. Et en fait, c'est quelqu'un dans l'immeuble qui a vu cette petite fille, c'est comme une petite jeune fille absolument amaigrie, apeurée, qui a fini par lui porter secours, et donc elle est arrivée jusqu'à nous, et nous l'avons évidemment encouragée à déposer plainte. La procédure judiciaire a duré 7 ans, ce qui est très important, parce qu'il y a eu plusieurs jugements, première instance, appel, cassation, retour devant une chambre, ça a été très long, et finalement au bout de 7 ans, on a abouti devant la Cour européenne des droits de l'homme, avec son dossier, et là, la France a été condamnée pour ne pas lui avoir permis d'avoir droit à une procédure équitable. C'est extrêmement... Que la France, pays des droits de l'homme, soit condamnée pour des faits d'esclavage domestique, c'était quand même extrêmement marquant. Donc cet arrêt est célèbre chez tous les juristes, et ça montre à quel point, effectivement, une petite jeune fille peut et faire se retrouver en enfer. Mmh. Elle est venue en pensant avoir un travail normal, elle est tombée en enfer. Mmh.
Et alors, le deuxième exemple que vous vouliez nous citer, quel était-il ?
Alors, le deuxième est dans une entreprise. Ça, c'est pas du tout le même. Ça concerne deux hommes. C'est une petite entreprise de la région parisienne qui faisait des appâts pour la pêche. Alors, le gérant a été condamné en 2014 à la suite du procès à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. En fait, pour avoir fait travailler deux hommes, au moment du procès, ils avaient 63 et 71 ans. Ils ont vécu et travaillé pendant plusieurs décennies au sein de cette entreprise, dans des conditions insalubres. Et ils n'étaient pas payés, ils étaient totalement dépendants de leur employeur, qui conservait tous leurs papiers d'identité. L'un, alors, ils étaient légèrement déficients intellectuellement, mais c'est une entreprise où il y avait d'autres personnes qui travaillaient dans des circonstances normales. C'est ce qui est absolument sidérant, c'est que ça avait pu durer aussi longtemps, alors que d'autres gens les voyaient. Quand nous les avons recueillis, si je puis dire, ils sont allés à l'hôpital tout de suite. Enfin, là, nous avions prévenu la police et il y a eu un constat policier fait immédiatement. Mais donc ça existe en France. Et ces hommes sont restés là pendant plusieurs décennies. Et pas au fin fond de la Lozère, dans un village de 15 personnes, en région parisienne. Donc c'est pour vous dire que ça existe, on ne le voit pas. On ne le sait pas, et parfois aussi on ne veut pas le voir. Parce que nous avons fait, par exemple, en décembre dernier et en janvier, une grande campagne d'affichage dans la France entière, qui s'appelait « Esclaves aujourd'hui en France », parce que nous essayons en fait de rendre visible l'invisible. Il se passe des phénomènes que l'opinion publique ne voit pas. C'est bien parce que vous, aujourd'hui, effectivement, vous les alertez, les gens. Il faut leur dire que quand ils voient...
Alors justement, c'était ma dernière question, puisque je sais que vous allez nous quitter. Quand on imagine, on sent qu'il y a une situation comme ça critique, qu'est-ce qu'on fait ? On donne le numéro de téléphone du comité contre l'esclavage moderne ?
Non, on l'appelle soi-même, parce que ces gens n'ont souvent pas les moyens. Ils peuvent être enfermés, ils peuvent ne pas parler le français, donc il faut appeler soi-même le comité. L'an dernier, on a reçu 351 signalements par téléphone. Et à partir de là, le comité, alors là, c'est son travail, étudie les signalements, contacte les personnes, les aide à sortir s'ils sont en situation d'exploitation, prévient la police. Mais il faut absolument lutter contre l'indifférence. Si on a un soupçon, il faut effectivement en faire part au comité contre l'esclavage moderne, qui là, évidemment, tous les 351 signalements n'ont pas abouti à 351 cas d'esclavage moderne. Mais une partie d'entre eux, oui. Et notre métier à nous, c'est d'avoir distingué ce qui est de l'esclavage, ce qui est des gens sans papier qui ont besoin d'aide. Enfin, il y a des choses, des degrés très différents. Et vraiment, notre métier à nous, c'est de savoir le faire, de savoir prendre en charge ces personnes victimes de travail forcé, d'esclavage domestique.
Eh ben, merci beaucoup. Je sais que vous nous quittez, Sylvie Audy. Donc, pendant que vous quittez, je vous remercie beaucoup. Je dirais
merci
donc.
Merci à vous.
Voilà que.
Je vous cite avant notre site internet où il y a quand même beaucoup d'exemples, notamment des 4 derniers procès qui ont été un à Paris en janvier, un en décembre à Bourges, un à Montpellier en novembre.
Oui, alors quelle est l'adresse du site ?
Un en octobre à Pontoise. Esclavagemoderne.org.
Voilà, esclavagemoderne.org. Et donc, je cite aussi, donc, pendant qu'on raccroche, qu'il y a une journée internationale de prière et de sensibilisation de la traite des humains qui a lieu, si je ne me trompe pas, le jour de la Saint-Joséphine Bakita, qui est une esclave soudanaise devenue religieuse, qui est assez connue dans l'Église catholique et que Benoît XVI a cité dans une encyclique, entre autres dans l'encyclique Spe Salvi. Martine Combemal, donc ces deux exemples, c'est sûr que c'est difficile de ne pas comprendre. Je voulais qu'on parle un tout petit peu de Midi-Pyrénées. Alors, peut-être qu'en Midi-Pyrénées, il n'y a pas des... des exemples aussi terribles, mais quelle forme ça peut prendre, même si vous n'avez pas des histoires comme ça particulières à nous raconter, chez nous, en Occitanie, quelle forme ça peut prendre? Vous me citiez surtout les travails domestiques et l'intérim. Alors, peut-être commençons par l'intérim.
Oui, je voulais. Elle vient de citer un cas qui s'est passé à Montpellier.
Ah oui.
Donc c'est l'Occitanie maintenant. Alors, en ce qui nous concerne, autant le Comité contre l'esclavage moderne travaille au niveau judiciaire pour protéger les individus. Nous, on va travailler en collaboration avec le Comité contre l'esclavage moderne sur la région de Midi-Pyrénées pour protéger les individus, mais en même temps trouver les causes des problèmes. RS Sans Frontières, c'est une ONG qui travaille d'un bout à l'autre de la chaîne de sous-traitance, puisque c'est là aussi qu'on trouve les problèmes de travail forcé.
Alors on y reviendra au fur et à mesure de l'émission, enfin peut-être à la fin, en troisième partie. En tout cas, sur Midi-Pyrénées, ça peut prendre quelle forme? C'est un sauf cas exceptionnel?
Non, c'est pas cas exceptionnel.
Comme cité,
en fait,
des cas d'esclavage, je veux dire, on imagine qu'ils sont quand même exceptionnels. C'est...
Non, pas forcément. Alors, on va... le travail forcé... On peut le voir au travers de 4 séries. Donc, Sylvie vous a décrit la loi. Mais si on peut le résumer et pour permettre de comprendre ce que c'est le travail forcé, il y a 4 séries d'indicateurs. Il faut qu'il y ait un consentement libre et éclairé de la personne. Il faut qu'il y ait une absence de contrainte. Il faut... La personne, elle est en situation de vulnérabilité, parce que souvent elle est isolée, elle ne parle pas la langue, et enfin, une absence de liberté de mouvement, souvent on lui prend les papiers. Pourquoi on peut trouver du travail forcé, ou en tout cas des risques de travail forcé dans la région? C'est parce qu'on va retrouver les mêmes causes que l'on trouve en Asie, par exemple.
C'est-à-dire?
Une absence de un problème de main-d'œuvre, pas assez de main-d'œuvre dans le pays, de la main-d'œuvre de faible qualification, des coûts qui peuvent être importants, ou alors des métiers qu'on ne trouve pas, et on va chercher des personnes dans un autre pays. Ça peut être la conséquence d'un salarié détaché. Vous savez qu'on parle beaucoup de salariés détachés venant d'un autre pays européen.
Il faut expliquer ce que c'est. Donc, c'est les salariés qui viennent d'autres pays, qui sont soumis donc à la législation du pays d'origine, et on dit que du coup, ça fait du dumping social.
Non, en fait, ils viennent d'un autre pays européen. Ils sont soumis à la législation
du pays d'origine,
où ils viennent. Oui, par exemple en France, mais ils doivent payer la sécurité sociale dans le pays d'origine. Ce qui fait que c'est de l'ordre de 30% de moins. Mais en fait, si on doit normalement payer le transport, payer le logement, et si on paye tout ça, c'est à peu près, le salarié détaché ne doit pas revenir moins cher qu'un salarié de France. D'autant plus qu'il passe par des agences d'intérim qui prennent même leur marge, donc il n'y a aucune raison que le salarié soit moins cher. S'il est moins cher, c'est qu'il y a un problème. Voilà.
Donc c'est ce qui se passe en Midi-Pyrénées?
C'est ce qui peut se passer en Midi-Pyrénées, qui s'est passé.
Est-ce que vous avez des exemples qui vous reviennent en tête?
Récemment, il y a eu, je crois que c'était en novembre 2016, une agence, une entreprise de travaux publics, ça se passe souvent dans les travaux publics et l'agriculture, qui embauchait des salariés au travers d'une agence d'intérim portugaise. En fait, c'était la même famille et ces salariés n'avaient aucun droit. Cette agence d'intérim portugaise n'avait aucune légitimité au Portugal, donc ne payait pas ce qu'elle devait payer. Et ils ont été poursuivis. Voilà. Donc ça, c'est... Et la problématique aussi vient du fait que c'est des gens qui viennent de pays européens ou d'autres pays, si ce n'est pas de salariés détachés. Il n'y a pas de corps d'inspection du travail qui peuvent couvrir plusieurs pays. D'où viennent les abus, en fait?
Alors, vous me parliez aussi du travail domestique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que parfois, on peut, en fait, sans s'en rendre compte, être complice du travail forcé en faisant travailler des gens chez soi, sans avoir vérifié un certain nombre de choses. C'est...
On est tous.
Surtout quand on ne déclare pas.
Oui, exactement. On est tous. Il n'y a pas les méchantes entreprises qui font travailler des gens en situation de travail forcé, et puis nous qui sommes absolument responsables de rien.
On peut le faire quand même plus ou moins consciemment.
On peut le faire plus ou moins consciemment, comme les entreprises d'ailleurs. C'est pas évident de comprendre les situations de travail forcé, surtout quand plus la chaîne de sous-traitance est longue, plus on a des risques de travail forcé. En ce qui nous concerne, souvent, en voulant être gentil, et en se disant, ces pauvres personnes sont là, on leur donne du travail en plus le dimanche, on les paye un peu moins que ce qu'on devrait les payer, mais bon, tout le monde y gagne. En fait, non. lorsqu'on ne paie pas, on ne déclare pas les gens ou lorsqu'on les paie moins, c'est le début du travail forcé. C'est-à-dire que c'est le début d'un abus des droits de l'homme qui peut conduire au travail forcé. Donc si on veut être sympa avec les gens, on les paye légalement.
La frontière est ténue parce qu'il y en a aussi qui demandent à ne pas être payés. Parfois on se dit, bon, faire travailler un tout petit peu plus que de mesure, c'est une manière aussi d'y retrouver son compte, non ? C'est quand même pas tout de suite de l'esclavage moderne.
Les personnes en situation de travail forcé sont souvent des personnes qui sont contentes de travailler. Elles ont parfois payé volontairement. C'est pour ça que quand je dis consentement libre et éclairé, c'est qu'elles ont souvent, elles ont demandé à venir au travers d'agences d'intérim. Elles ont tout vendu. Parfois, elles ont payé de 1 à 3 ans de salaire pour venir. C'est comme si vous travaillez au travers d'ADECO, par exemple, ou d'agences d'intérim, est-ce que vous imagineriez est-ce que vous trouvez normal de payer votre travail ? Une entreprise, je vais dire n'importe quoi, Bouygues ou autre, vous demande de venir travailler, a besoin d'ouvriers. Vous êtes en France, vous allez voir l'agence d'intérim et c'est Bouygues qui va payer l'agence d'intérim, c'est normal. Dans des situations avec des agences à l'extérieur, c'est le salarié qui est isolé qui va payer son agence d'intérim. Et c'est là où le consentement n'est plus libre et éclairé quand on doit de l'argent. Quand on doit une telle somme d'argent, du coup, on a une contrainte qui pèse sur son travail. Du coup, ces personnes sont obligées de faire des heures supplémentaires pour pouvoir rembourser leurs dettes. Et on dit toujours, ah, mais ils ont l'air contents de le faire, ils sont plus souples que les Français, etc. Donc vous avez l'impression qu'ils sont heureux, mais en fait, non. Ils le font parce qu'ils doivent le faire. Voilà.
Peut-être avant qu'on fasse une deuxième pause, je voulais prendre un dernier exemple, c'est l'exemple de la mendicité, parce que ça, comment dire, on peut tous voir des personnes qui font la mendicité, et entre autres, comment dire, on peut avoir l'impression parfois qu'il y a des réseaux derrière. Est-ce qu'il y a derrière les gens qui font la manche dans les rues de nos grandes villes, ou parfois au feu, comment dire, à l'arrêt au feu rouge, en fait, des gens qui sont, pareil, dans des situations de traite humaine ou de travail forcé, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des dettes, c'est pareil, et puis toute la journée, ils font la manche parce qu'il faut qu'ils remboursent des dettes ou qu'ils... Est-ce que ces réseaux de mendicité, derrière ces réseaux de mendicité se cachent parfois de telles réalités ?
Je ne suis franchement pas une spécialiste des réseaux de mendicité. Nous, on travaille vraiment sur les réseaux, tout ce qui est chaîne de sous-traitance. Ce que je sais, c'est qu'en Côte d'Ivoire, où j'ai pas mal travaillé, et par exemple, les réseaux de mendicité, effectivement, c'était du travail forcé des enfants. Et comme le décrivait Sylvie, c'est souvent des familles ou des personnes religieuses qui viennent voir les familles dans un autre pays, des familles élargies, en leur disant « je vais vous donner du travail, je vais leur donner, ils pourront aller à l'école ». En fait, le genre d'école, c'est souvent, enfin, ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, c'était des écoles coraniques qui n'étaient pas vraiment des écoles coraniques, on leur apprenait le Coran par cœur, et ils devaient faire mendier. Ces gamins étaient ne mangeaient pas, étaient sous une propagande pas possible, sous couvert de leur donner de l'éducation. Et les parents étaient vraiment sûrs qu'ils avaient de l'éducation. Donc c'est ce qui se passe actuellement dans certains pays.
Voilà, et puis pour les réseaux de mendicité, il faudra réinviter Sylvie Audin. On va faire une deuxième pause et puis on va voir après quel est le travail donc, de Ressources Humaines Sans Frontières, puisqu'il y a des choses qui sont faites au niveau international en France, mais aussi en Midi-Pyrénées.
Grimace sentimentale, on garde le moral, hélas, pas le reflet. Je t'aime de temps en temps, tu m'aimes quand on s'entend, mais je reste consentant si tu fais ce qui me plaît. De sourire en fou rire, en soupir de désir, et presque s'étourdir à en perdre la fête. Peine d'éviter la peine, vivons la peine, vivons la pleinement, donnons-nous la peine d'éviter la peine, vivons la peine, vivons la pleinement. Amour que l'on dévale là-dessus sur un cheval, une chance que l'on s'évade à l'unisson. Je rêve quand tu t'endors, tu planes et je m'envole. Qu'importe les symboles, tu me fais le même effet. En erreur, nos secrets de bonheur, on prend de la hauteur, ensemble atterrissons. Donnons-nous la peine d'éviter la peine. Vivons la peine, vivons la pleinement. Donnons-nous la peine d'éviter la peine. Vivons-la pleinement, vivons-la pleinement. Vivons-la pleinement. Vivons-la pleinement. Vivons-la pleinement. Donnons-nous la peine d'éviter la peine. Vivons-la pleinement, donnons-nous la peine d'éviter la peine. Vivons la peine, vivons-la pleinement, vivons-la pleinement. Vivons-la pleinement, vivons-la pleinement.
Radio Présence à Foix 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Travail forcé, cet esclavage qui ne dit pas son nom, donc ce sujet bien difficile si vous nous prenez en cours de route, donc je vous rappelle que c'est ça dont nous parlons ce matin, et je le redis, sujet cher au pape François qui ne cesse d'en parler depuis son élection en 2013, parlant d'un fléau méconnu et disant la traite des humains est un crime contre l'humanité. Et ce qu'on a compris depuis le début de cette émission, c'est que parfois, il n'y a pas besoin d'aller très loin, ça peut être chez nous, et la plupart du temps, c'est caché et déguisé, donc c'est très difficile à détecter. Martine Combemal, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus donc, de Ressources Humaines Sans Frontières? Vous avez présenté rapidement cette ONG. Donc vous, votre boulot, c'est d'essayer de remonter la chaîne de sous-traitance et de faire en sorte qu'il y ait une forme de traçabilité éthique, c'est ça, du travail?
Voilà. Parmi les ONG, il y a des ONG qui agissent contre, il y a des ONG qui agissent de l'intérieur pour essayer de faire changer les choses. Les deux sont importantes. Alors nous, on est dans la deuxième catégorie et on se dit que tout le monde, il y a dans la chaîne de sous-traitance, vous savez, dans vos habits, dans les habits par exemple qui sont fabriqués, il y a la graine de coton au départ, puis la vente de l'habit à la fin. Et puis il y a cette chaîne de sous-traitance, c'est-à-dire que les boutons sont fabriqués quelque part, le tissu est fabriqué ailleurs, et puis après il y a la couture. Souvent, en bout de chaîne de sous-traitance, il y a des personnes qui travaillent, qui ne connaissent même pas, qui ne savent absolument pas pour qui ils travaillent. Ces personnes-là, nous, on dit qu'elles ont les mêmes droits que celles qui travaillent en France ou ailleurs. On n'est pas particulièrement contre une chaîne de sous-traitance, parce que parfois on ne peut pas faire autrement, et puis c'est une décision de l'entreprise, mais on dit vous devez protéger même la personne qui est au bout de la chaîne et que vous ne connaissez pas parce que vous en êtes responsable.
Mais le donneur d'ordre en général est quand même... Est-ce que le donneur d'ordre, en l'occurrence prenant une marque de vêtements, est tenu quand même de faire en sorte que savoir qu'au bout de la chaîne de sous-traitance, les gens ont des droits équivalents? Est-ce que...
Alors depuis le 21 février, il y a une loi qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance. C'est des ONG...
21 février de cette année.
De cette année. C'est des ONG comme l'association Sherpa ou même le comité, je ne sais pas s'ils y sont eux, mais qui ont poussé pour cette loi suite au drame du Rana Plaza. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au Bangladesh, 1000 morts, et qui ont poussé pour que les entreprises donneurs d'ordre en France soient responsables de ce qui se passait au bout de leur chaîne de sous-traitance. Le Conseil constitutionnel a enlever les indemnités financières, mais il n'empêche qu'ils sont responsables de leur chaîne de sous-traitance. Donc ça va ça va aider. Ça veut pas dire on travaille avec des entreprises, c'est pas une notion de noir et blanc. On sait pas forcément ce qui se passe au fin fond de la chaîne de sous-traitance. Ce qu'on leur demande, c'est de remonter leur chaîne de sous-traitance et de savoir où sont fabriqués les produits qu'ils utilisent.
Alors est-ce que vous pouvez prendre des exemples après nous parler des projets que vous mettez en place? Parce que le consommateur lambda évidemment se pose parfois la question quand il appelle une plateforme téléphonique de son opérateur téléphone et que ce sont des gens qui travaillent de l'autre côté de la Méditerranée, voire parfois plus loin. Quand on va acheter un jean et qu'il arrive du Bangladesh ou de la Chine, il n'y a pas marqué étiquette, il n'y a pas une étiquette sur le téléphone portable ou sur le jean en marquant traçabilité éthique garantie. Donc, est-ce que c'est ça votre boulot d'une certaine manière?
Alors, remonter une chaîne de sous-traitance, c'est très long et très compliqué. Pour vous donner un exemple, en Côte d'Ivoire sur le cacao par exemple, on a essayé de remonter la chaîne de sous-traitance d'une entreprise c'était Nestlé c'était il y a quelques années. On a mis un mois à 10 personnes à remonter la chaîne de sous-traitance uniquement du cacao. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est ce que font les entreprises actuellement, d'essayer de voir où sont leurs produits, où c'est qu'ils sont fabriqués, y compris dans l'agriculture, parce que c'est souvent des petits fermiers, enfin c'est extrêmement complexe, c'est pas si simple que ça. On a travaillé par exemple en Chine, en immersion complète pendant 2 ans, une collaboratrice de Ressources Humaines Sans Frontières est restée avec l'accord de l'entreprise dans une entreprise pendant 2 ans pour limiter les abus, réduire les heures supplémentaires de 80 heures par semaine à 60 heures, ce qui est le droit international.
Et 60 heures supplémentaires par semaine?
60 heures de travail par semaine, travail, oui. C'est le droit international.
D'accord.
Et on était à 90, voilà. On a réussi à travailler là-dessus. Lorsqu'on est arrivé, on s'est dit pendant 2 ans, on va remonter toute la chaîne de sous-traitance, travailler sur la teinture, regarder là où il y a les abus. Et on n'y est pas arrivé. C'était très complexe. Les salariés, quand ils ont vu que le salaire était amélioré, pour moins d'heures supplémentaires, ils ont fait grève, par exemple, parce qu'ils sont pas habitués à ça. Donc, il a fallu vraiment travailler en profondeur pendant 2 ans pour changer les mentalités, et on n'a pas pu remonter tout. Donc, c'est très compliqué de mettre un tampon. C'est très, très compliqué, mais il y a des choses à faire.
Alors, justement, il y a des choses à faire. Je voulais que vous nous parliez de 2 projets. Il reste pas beaucoup de temps, alors on va peut-être parler que d'un. Le défi 8-7, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce défi 8-7 auquel vous travaillez, et vous travaillez conjointement, je crois, avec la région?
Oui.
Occitanie.
Alors, le défi du 8-7 vient des objectifs du développement durable. L'ONU a fixé des objectifs du développement durable pour les années à venir. Et dans ces objectifs, il y a plusieurs cibles. La cible que l'on a choisie, c'est la cible numéro 8, et notamment la cible numéro 8-7, qui permet de réduire, qui dit qu'on va éliminer ou réduire considérablement le travail des enfants, le travail forcé, à l'horizon 2025. Et pour ça, une alliance s'est créée qui dit on doit tous se mettre ensemble pour réduire ce travail des enfants et travail forcé. Nous, en région Pyrénées, on a dit ok, chiche, on va lancer un défi et on se met tous ensemble, du consommateur à la région, à la mairie, pour travailler et réduire ce travail des enfants, travail forcé.
Donc pour qu'il n'y ait pas de travail forcé des enfants en Occitanie, mais aussi
à l'étranger. C'est-à-dire que nous, on ne soit pas complices de D'accord. ce qu'on... Parce que c'est facile aussi de le réduire ici et puis de le sous-traiter ailleurs. Donc, on a lancé ça le 20 février, la veille de la loi sur le devoir de vigilance, et on a demandé aux partis, enfin à tous ceux qui sont concernés, d'agir. Donc, en ce qui concerne la région, on va travailler sur tout ce qui est... au moins dans le secteur du bâtiment, puisque c'est là où il y a le plus de problèmes.
Parce qu'il y a des enfants, il y a des mineurs qui travaillent dans le secteur du bâtiment en Occitanie.
Dans le secteur du bâtiment, pas forcément, mais il y a du travail forcé, il peut y avoir du travail forcé dû à ces D'accord. problématiques de travailleurs migrants. Dans l'agriculture, il peut y avoir des enfants, effectivement. Sachez que les enfants, c'est jusqu'à 18 ans, hein. On n'a pas défini le travail des enfants, mais le travail abusif des enfants, c'est jusqu'à 18 ans.
Donc qu'est-ce que vous allez mettre en place du coup comme action ?
Alors, ce qu'on met comme action, dans un premier temps, on analyse les appels d'offres de la région, là où ils peuvent avoir du travail forcé et du travail des enfants, pour essayer de trouver un plan d'action. Ensuite, on va faire un questionnaire pour comprendre quels sont les systèmes de recrutement dans le bâtiment en région Occitanie, pour trouver un plan d'action avec toutes les parties prenantes et pour agir. Du côté consommateur, on va créer avec le comité contre l'esclavage de Moderne et la mairie de Toulouse une permanence à la mairie de Toulouse à partir du mois de septembre, où chaque mois, les personnes on pourra venir parler de cas qu'on aura identifiés, de cas personnels, et ensuite on verra avec le comité contre l'esclavage moderne les cas qui leur revient, personnels, qui pourront suivre, ou on pourra orienter ces personnes vers d'autres actions, et RHSF pourra analyser ce qui se passe dans la chaîne de sous-traitance pour travailler avec les entreprises.
Et comment vous allez sensibiliser les consommateurs à ne pas avoir recours soit du travail forcé sans s'en rendre compte, comme on en a parlé tout à l'heure, soit à éviter, enfin à être attentif à ce qu'ils achètent.
Alors on a créé un guide qui est sur notre site, le guide sur le travail forcé, qui est pour les consommateurs, les syndicats et les entreprises. Là, on a synthétisé les questions que les personnes nous posent avec des outils. Donc chaque fois qu'une personne a des questions qui n'est pas dans ce guide, elle nous la pose et on la remettra dans ce guide avec les réponses qui vont servir à tout le monde. Déjà, et ensuite on fera une publicité effectivement pour venir à cette permanence à Toulouse. Pour les écoles, on a créé avec la mairie de Toulouse et aussi Caritas Internationalis, qui travaille beaucoup avec nous sur le sujet, à partir d'une exposition de dessin qu'on avait fait avec Plantu, un livre pour les professeurs, pour expliquer aux enfants ce qu'est le travail forcé au travers du dessin. Ce livre est disponible. Il suffit de le demander à la mairie. Il y a l'exposition aussi qui est disponible. Il suffit de le demander à la mairie. Caritas aussi a cette exposition et peut faire tourner cette exposition. C'est Caritas Internationalis qui l'a, mais vous pouvez la demander ou nous la demander. Donc ça, c'est pour les professeurs, pour les consommateurs. Pour les syndicats, on va travailler avec eux pour qu'on puisse faire remonter les informations du terrain. Et avec les administrations, les organisations publiques, on va travailler sur les appels d'offres.
Eh ben, merci beaucoup Martine Combemal. Donc on rappelle le nom de ces deux ONG, Comité contre l'esclavage moderne et Ressources humaines sans frontières. Merci beaucoup d'être venu nous parler
merci
de ce sujet
et
bien délicat.
Rejoignez le défi 8-7, tout le
Exactement.
Monde peut le rejoindre.
Merci beaucoup, cette émission a été réalisée par Francky Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Et merci à merci à Anne de la Doucette pour son aide pour cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.